Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, et c'est un deuxième entretien avec, pour intervenante au micro aujourd'hui, et près de cette grotte Massavielle, puisque nous enregistrons cette série d'émissions pendant ce pèlerinage du Rosaire. Bonjour Marielle de Vera.
Bonjour Nathalie.
Ravie de votre fidélité. Merci aussi de cette expérience de femme que nous allons découvrir jusqu'à la fin de cette semaine. Je rappelle que vous avez un métier qui vous passionne toujours, que vous avez travaillé dans la production d'émissions de programmes de télé des réalités sur TF1 jusqu'en 2013, et qu'en 2013 c'est un grand tournant pour vous, un tournant qui vous conduit à ce temps de conversion où vous retrouvez Jésus dans votre vie, où vous prenez la Vierge Marie pour mère dans votre parcours, et parcours personnel et à la fois professionnel. C'est un parcours qui vous conduit depuis quelques mois à vivre ce que l'on appelle le combat spirituel.
Oui, je pense qu'il y a Dieu, mais je pense qu'il y a diable. Faut dire son nom, même si j'aime pas le dire. Je le dis le moins souvent possible.
Vous l'écrivez.
Je l'écris
dans le livre. Ouais. Page 64, 65. Mm-hmm.
Je l'écris parce que ça serait trop facile de pas le nommer. Ça serait perdre le combat. Et en même temps, il faut pas trop le nommer parce que ça sert à rien de lui faire de la publicité. Voilà. Donc, oui. Je pense que c'est simple, le livre est sorti le 27 septembre 2018. Le 16 octobre 2018, j'étais terrassée par une hémorragie cérébrale. Et donc j'étais en pronostic vital avancé. Et que derrière, ça a été, je pense, la pire année de ma vie. Mais en même temps, c'est ça qui est assez fantastique, c'est que le ciel est là. Même si parfois, et j'en parlais hier, même si parfois on peut se demander est-ce que le ciel ne m'a pas abandonnée. Mais non en fait, parce que ce qui est formidable avec le ciel, c'est qu'il n'est pas à notre vitesse à nous, il est à sa vitesse à lui, mais il fait toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer. J'espère rentrer dans cette phase-là. Je dis j'espère parce que j'en ai vraiment pris plein la figure cette année.
Vous en avez bavé.
Oh oui.
Vous avez eu peur? Peur de la mort?
Non, alors ça, pour le coup, j'ai des pronostics vitaux avancés. J'ai passé la pire nuit de toute ma vie. C'est assez curieux, j'ai pas eu peur de la mort. C'est-à-dire que j'ai eu peur rétrospectivement. Mais je crois que d'être croyant, ça donne une force surnaturelle. Parce qu'en fait, je me suis dit, au moment où on m'a dit que c'était possible que je meure, là, dans les minutes qui arrivaient, au contraire, je me suis dit, allez, en avant pour l'aventure. Je me suis dit, s'il faut le vivre, on va le vivre. Donc je leur ai demandé combien de temps j'avais à l'hôpital. Ils m'ont dit, on ne sait pas. Je leur ai dit, vite, passez-moi mon téléphone portable. Et là, j'ai appelé mes parents. Et là, c'était un coup de fil très, très difficile. Puisque mes parents habitent Paris, j'étais dans le sud de la France. Et je leur ai conseillé de prendre un avion parce qu'ils allaient ou me retrouver ou vivante ou morte. Mais donc, c'était très, très compliqué comme coup de téléphone. Mais en plus, j'étais pressée par le temps puisque le SMUR venait me chercher. Puisqu'on m'a transférée d'un hôpital à l'autre. Et puis, j'ai appelé le prêtre qui a fait la préface du livre, Bernard Bellanza. C'était minuit. En lui disant, Bernard, entre en prière, je suis entre la vie et la mort, voilà. Et c'est ce qu'il a fait, il a prié le chapelet.
Alors l'histoire de ce prêtre est importante aussi dans votre parcours, hein, on va voir, on va progresser. C'est un moment de grande solitude, c'est un moment de confession entre vous et le bon Dieu, dans un moment pareil, où tout peut arriver.
Je pense que c'est la plus grande leçon du chrétien, c'est l'abandon. C'est-à-dire que c'est ne pas, surtout pour une femme comme moi qui maîtrise ma vie depuis toujours, chaque rendez-vous est décidé, maîtrisé, programmé.
Femme d'affaires.
Femme d'affaires. Vous savez pas ce qui va se passer en fait. Donc la foi, et c'est là où la foi elle est incroyable, c'est que vous savez pas ce qui va se passer, mais vous faites confiance. Et vous vous dites que si c'est votre heure, c'est votre heure. Voilà. Donc c'est après que j'ai eu peur. C'est assez curieux. C'est après que j'ai eu peur. Et puis, il y a des petits miracles. Il y a, Il y a, j'ai jamais su d'ailleurs, je saurais jamais si c'était cette femme médecin ou infirmière dans l'ambulance entre Nice et Cannes, enfin entre Cannes et Nice, qui m'a dit des paroles d'une grande foi, alors qu'elle ne savait absolument pas ni qui j'étais, ni si j'étais croyante ou pas. J'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit dans l'ambulance. Et puis, pareil, une infirmière en réanimation avec qui j'ai parlé toute la nuit. Et qui me confiait ses angoisses d'infirmière en pensant être la pire infirmière de la Terre. C'est assez curieux. Et là, je me dis, Dieu a aussi beaucoup d'humour parce que quelque part, même si ça doit être ma dernière heure, il a mis sur mon chemin des personnes de cœur. Voilà, et j'appréciais ça.
Et des personnes qui se confient.
Et des personnes qui se confient, ouais. J'ai vraiment apprécié ça.
Vous avez parlé de la femme d'affaires. Vous reconnaissez toujours une femme d'affaires, mais une femme d'affaires transformée. Convertie.
Oui, parce que...
Dans ce statut de femme d'affaires.
Très, très, très sincèrement, quand j'ai eu ma conversion, je me suis posé toutes les questions. Hein. C'est-à-dire, je me suis dit, mais est-ce que j'arrête mon métier? Est-ce que je le continue? Est-ce que... Enfin, c'est allé jusque-là. Et aujourd'hui, je suis convaincue que je dois continuer mon métier. Et donc, du coup, c'est aussi, je pense, un vrai challenge pour toutes les personnes qui sont chrétiennes et qui doivent faire des affaires. C'est entre deux contrats, lequel choisir. Pour avoir un contrat, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Vous voyez, ce sont des questions qui sont fondamentales, je pense, chez tout chrétien, patron. Moi, aujourd'hui, j'ai deux entreprises. Et c'est vrai que ce sont des questions qui sont tous les jours là, quoi. De me dire, quand on doit licencier, comment licencier? Quand on doit... quand un employé fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, comment lui parler? Même si c'est grave, comment lui parler? Et du coup, ça change tout. Ça change tout, en fait, dans une entreprise.
Votre métier a évolué. Votre métier de journaliste, de productrice, a été quelque peu transformé dans votre manière de travailler?
Bah alors, du coup j'ai quitté ces émissions là j'ai arrêté, puis aussi parce que la télé-réalité avait changé, parce que moi je fais pas partie des gens qui critiquent la télé-réalité.
Alors là vous allez nous expliquer
parce que la fabriquer
cette télé-réalité que vous avez donc débuté dans les années 2000-2001, mm-hmm. Les premiers plateaux de télé-réalité, vous y voyez du bon, vous y voyez de la fécondité, vous êtes bienveillante avec ces programmes que vous avez produits il y a près de 20 ans aujourd'hui.
Bah oui, parce qu'en fait, je pense que les médias étaient très très sévères avec nous, alors qu'au fond, c'était une télé...
Injustement.
Bah, injustement ou pas, parce que c'est vrai que ça n'a jamais été une télévision bien intellectuelle, on le sait, voilà. Mais je me dis aussi qu'il faut de tout pour faire un monde, et que il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour se détendre à la sortie de l'école, et on faisait une télé de jeunes, faite par des jeunes, pour des jeunes. Et c'était, aujourd'hui, quand je regarde certaines émissions actuelles de télé-réalité, là, mes oreilles grincent terriblement. Parce que la télé-réalité, vers 2012, a commencé vraiment à changer. Et là, pour moi, pas du tout dans la bonne direction. Mais moi, la télé-réalité que je faisais, c'était un groupe de jeunes qui signaient des contrats gérés par des avocats. Donc, ils savaient exactement où ils allaient. Donc, ils étaient absolument pas pris au piège, contrairement à ce qu'on pouvait dire. Et du coup, après, c'était une entente réelle entre les équipes de production et les jeunes. Et on ne les obligeait à rien faire. Il y avait un programme dans la journée. Il le faisait pas, et quoi qu'il arrive, nous, ça nous faisait de l'histoire. Ceux qui le faisaient, on le racontait, ceux qui le faisaient pas, on le racontait. Et tout le monde était content.
Donc à l'époque, vous étiez jeune vous-même.
Oui, c'est ça. C'était une télé pour les jeunes, faite par des jeunes. Je pense que la moyenne d'âge des émissions fabriquées de production de télé-réalité, c'était 30 ans, maximum.
Qu'est-ce qui vous passionnait dans ce type, très précisément, qui était nouveau, d'émissions de télé-réalité?
L'humain. Tout simplement, c'est que...
De l'humain dans ces plateaux de télé-réalité?
Il y en avait beaucoup, beaucoup plus qu'on le pense. Et c'était... vous aviez des jeunes qui sortaient des jupes de maman-papa et en même temps, vous aviez des gamins qui n'avaient plus vraiment de parents. Donc du coup, coup, bah, nous, on faisait un peu le rôle de papa-maman, en fait, quelque part. Sauf qu'on était jeunes nous-mêmes. Hein, mais moi, j'ai veillé des gamins toute la nuit parce qu'il y avait des rages de dents, des gastro, et c'était des candidats qui faisaient la une des journaux. Et ça, c'est des choses qu'on ne disait pas. Parce que d'abord, pour les protéger. Puis moi, il m'est même arrivé de dire à des candidats, fais pas ça, parce que pour toi, c'est pas bien, quoi. Enfin, pour ton image à la sortie, à un moment, tu vas sortir. Enfin, fais pas ça. Donc, certains de mes confrères producteurs faisaient la même chose que moi. Alors d'autres les poussaient, c'est vrai. Mais on était quand même plus, en règle générale, à les freiner et dans un but bienveillant pour eux. Parce qu'au final, moi, je les aimais beaucoup, ces gamins.
On y reviendra si vous le voulez bien. Le temps tourne. On vous retrouve demain dans cette même émission des clés pour vivre. Vous avez trouvé aujourd'hui d'autres clés peut-être, d'autres clés pour vivre autrement votre statut de femme d'affaires, de journaliste et de productrice. Je vous donne quant à moi rendez-vous demain, toujours sur Lourdes, pas très loin de cette grotte Massabielle où cette dame est venue vous rejoindre et vous donner rendez-vous un jour de mai 2013. À demain. À la même heure.
Merci.